Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, du canote à la nage. Regardez la rivière. Le vent léger joue sur l'eau et le canotier en profite pour serrer au plus près les coups de tribord pour mieux filer vent arrière. Les marins de mer ne connaissent pas ce langage. La brise, pour eux, n'a pas la même signification, ni même l'écoute. Le marin d'eau douce, dont quelques-uns parfois se moquent, a connu pourtant son heure de gloire, illustré par un petit ouvrage destiné à décrire son innocente passion. L'apparition en 1845 du manuel universel et raisonné du canotier fut salué comme un événement sans pareil du côté des berges de la Seine et de la Marne. C'est que le canotage, copié sur le rowing des Britanniques, commençait à devenir le sport qu'il convenait de pratiquer en ce milieu du XIXe siècle. Dès le matin du dimanche ou 10 jours de fête, le frac est mis au croc, on endosse la vareuse, on passe la salopette de grosse toile et la barbe hérissée, le brûle-gueule à la bouche, on monte à bord pour aller croiser du pont de Bercy à celui de Charenton ou parader au régat du pont d'Asnières. C'est l'auteur du manuel qui signait Un loup d'eau douce qui parle. Ce loup-là se nommait Jules Jacquin et était curé de la paroisse de Saint-Gratien près de Montmorency. Sa qualité d'ecclésiastique lui permit de faire un constat capital qui aurait dû servir de leçon pour l'avenir. Aucun écrivain, ni grand ni petit, n'a considéré sous le point de vue social et philosophique l'influence que le canotage des jeunes gens de Paris a exercée sur les vicissitudes de leurs finances, leurs relations de plaisir, leur allure, leur goût et leur langage. Quoi qu'il en soit, les canotiers pouvaient enfin tenir entre leurs mains leur guide. Celui-ci décrit pour la première fois l'origine et le développement du canotage, car comme le soulignait le loup d'eau douce, qui avait parcouru des dictionnaires, vocabulaire et lexicon, le canotage n'a pas d'historien. Notre homme savait aussi de quoi il parlait, car bien avant que la canotomanie fût à la mode, il avait tenu l'écoute et patiné l'aviron. Et aurait pu, au besoin, servir de pilote depuis la fin de l'Oise jusqu'à l'embouchure de la Marne. Le manuel, illustré de 50 gravures sur bois, est aussi précis que l'indique son titre. On le trouvait à Paris chez Auvin et Fontaine, passage des Panoramas, et à Poissy, chez Olivier Fulgence, rue des Dames. Il fut réédité l'année suivante par le comptoir des imprimeurs réunis. Les deux éditions sont identiques et contiennent le même frontispice représentant le canotier. Non, il n'est pas coiffé d'un chapeau de paille à bord plat, car celui-ci n'était pas encore à la mode, mais d'un bonnet de laine napolitain, brun d'un côté et rouge de l'autre. Ce n'est pas le tout de savoir naviguer, même en eau douce, encore convient-il de ne pas avoir peur de l'eau, dans le cas improbable où son embarcation chavirerait. Bernardin Saint-Pierre a dit que l'art de nager est une source perpétuelle de plaisir. Il semblerait qu'il n'ait pas demandé en la matière leur avis à Paul et Virginie. La nage est pourtant une pratique aussi ancienne que l'homme. Selon les Romains, un personnage mal éduqué était celui qui ne savait ni lire ni nager. Plus tard, nul gentilhomme ne pouvait être armé chevalier s'il ne possédait parfaitement l'art de la natation. Des ouvrages ont heureusement pallié cette inculture gênante. L'un des plus fameux du genre, L'art de nager, est complété d'un sous-titre aussi long qu'explicite. Avec des avis pour se baigner utilement, précédé d'une dissertation où l'on développe la science des anciens de l'art de nager, l'importance de cet exercice et l'utilité du bain, soit en santé, soit en maladie. Suivi des moyens de rappeler les noyés à la vie et d'un plan d'une école publique de natation. Ouvrage utile à tout le monde et destiné particulièrement à l'éducation des jeunes militaires du corps royal de la marine. Cet ouvrage, si utile à la culture naturelle de l'homme, est paru pour la première fois à Paris en 1696 sous la plume de Melchisedec Thévenot, neveu du célèbre voyageur au Levant et voyageur lui-même en Europe, d'où dit-on, il rapporta de nombreux livres rares et manuscrits précieux. Il assista notamment en 1654, par ordre du roi, à l'élection du pape Alexandre VII. Il habitait une maison à Issy et recevait nombre de savants de ses amis qui lui apportaient les découvertes qu'ils avaient faites dans les sciences. Ce fut là, rapporte Ménage, l'origine de l'Académie des sciences. Thévenot fut quelque temps, à partir de 1684, garde de la bibliothèque du roi, qu'il enrichit de livres importants. Voyageur, bibliophile et savant, Thévenot a dans son ouvrage notamment inventé une nouvelle technique de nage sur le dos. Ce qui a permis à son éditeur de faire graver une jolie vignette représentant une dame s'exercer à fleur d'eau cette pratique, vêtue dans le plus simple appareil. On connaît 5 éditions ou 5 autres ouvrages de l'art de nager. L'une, celle de Nicolas Fédel, titrée « Essai sur l'art de nager » par l'auteur des Préceptes, publié en 1783 sous le nom de Nicolas Roger, plongeur de profession, et inséré depuis dans l'Encyclopédie, imprimé en 1787 à Londres et en fait à Paris. Et dans la seconde édition, Fédel reproche aux auteurs de la nouvelle encyclopédie d'avoir mal composé son texte et qu'il a décidé de rendre plus concis ici. Il propose de créer une école de nage après avoir donné sa méthode. On ne peut être bon nageur sans être plongeur. Je conseille donc de commencer par là. C'est le seul moyen de se familiariser véritablement avec l'eau. Et on trouve en tête du volume un curieux prospectus du livre imprimé en rouge. Sinon, la plus connue est la 4e, imprimée par Lamy en 1782, ornée de 22 planches et augmentée en fin de volume du plan d'une école publique de natation, d'une description de nouveaux scaphandres et de différents pantalons imperméables à l'eau. Plus une dissertation sur les bains turcs, le tout par un avocat du Parlement de Paris du nom de Poncelin de la Roche. Benjamin Franklin possédait un exemplaire de l'art de nager. Il raconte dans la Gazette qu'il essaya les 30 différentes manières de nager qui y sont décrites. Il fabriqua des nageoires pour les mains et les pieds, mais trouva cet appareillage trop fatigant et préféra le cerf-volant qui le tirait sans effort ni fatigue à travers un étang ou sur une rivière, ajoutant ainsi un procédé nouveau au traité de Thévenot.